France Inter.
Bonsoir, mais oui, on trépigne. Nous sommes dans les coulisses du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, en direct, en public. Et pour que le grand spectacle radiophonique commence, il faut demander à notre réalisateur François Audouin. François, top antenne.
En public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir.
C'est notre projet.
Et de musique avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Chewbacca, Laëlia Ferron, Constance, Jamil Deschlag et Guillaume. De la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui préside la cour des comptes de l'humour, puisqu'elle note scrupuleusement le nombre de rires pour chaque chroniqueur, pas question de faire des économies, Charline Vanilaka.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
Bonsoir la France Inter. Vous avez passé un beau week-end ? Ah oui, c'est mitigé. Moi, excellent, je me suis reposée parce que mon texte, je l'ai écrit il y a déjà, oula, 3 mois au moins. C'est sur le résultat des élections en Russie. C'est un enjeu pour toute l'Europe. Imaginez un instant que Poutine perde cette élection. La guerre serait finie. Ouais, non mais voyez, vous avez déjà ri au mot perdre. Non mais il n'y a jamais moyen d'aller au bout de cette phrase. Hein. À moins que cette élection soit complètement torpillée par des hackers français. Si c'est les mêmes qui ont conçu l'appli SNCF Connect, on a une chance. Ouais. Vladimir Poutine, il est tellement assuré de gagner que ce soir, quand on va officialiser sa victoire, il va dire « Ah ouais, c'était aujourd'hui, j'avais oublié ». Face à Poutine, il y avait 3 autres candidats. En Russie, on parle d'opposition tolérée. C'est une opposition qui dit « Votez plutôt Poutine, car notre programme, c'est essentiellement de rester en vie. Hein. » D'ailleurs, moi, j'ai essayé de traduire le mot « opposition » en russe sur Google Trad, ça m'a sorti « polonium ». J'ai pas compris. Voilà. Enfin bon, ils sont 3 candidats, en même temps, vous savez combien ça pèse un tapis rouge ? Faut au moins être 3 pour le dérouler. Hein. Alors, dans les régions annexées de l'Ukraine, des soldats armés ont invité les citoyens à voter. Oui, l'isoloir, c'est par là. Suivez le canon de la AK-47. Il est dans votre dos, en effet. Vous voyez ce que c'est qu'un AK-47 ? C'est un 49-3, mais en russe. Voilà, sauf que celui-là, il fait des trous, quand même. Alors, l'élection a duré 3 jours. 3 jours ! Il faut laisser le temps à chaque fonctionnaire de voter 452 fois pour Poutine. C'est également le temps qu'il faut pour retrouver ceux qui n'ont pas voté Poutine afin qu'ils puissent revoter, bien sûr. Parce que là-bas, si tu mets pas le bon bulletin dans l'urne, c'est toi qui risques de finir dedans. Hein. Alors le dépouillement, ça doit être quelque chose. Hein. Alors, Vladimir Poutine est élu à 90% des voix, bravo. Allez, maintenant on dépouille les bulletins pour vérifier si on a triché correctement. Il faut reconnaître qu'on observe tout ça avec nos regards d'occidentaux aussi. Mais imaginons qu'on demande son avis à, je sais pas moi, aller au hasard, Kim Jong-un. Eh ben, lui, il dira que c'est 100% démocratique. Eh ouais, tout est question de point de vue. Décentrez-vous un peu, hein ? Un peu de pluralisme sur cette antenne. Que diable ? Quelle promenade de santé pour Poutine qui n'a rien eu à faire pour remporter l'élection. Pas de programme, pas de débat, pas de meeting, et le plus important... Il n'a même pas eu besoin de faire appel au Rassemblement national pour financer sa campagne.
Charline ?
Oui, Émeric ?
Ce ne serait pas un jour un peu particulier aujourd'hui ?
Merci. Je viens d'en parler pendant 3 minutes, là, les élections en Russie.
Oui, ça c'est important, mais un truc un peu plus important quand même.
Moi, j'ovule.
Oui, bon, ça c'est glauque, mais un truc plus important.
La Saint-Patrick.
Rien à voir, j'ai dit important.
Dans 4 jours, c'est le printemps.
Moi, je joue le 12 avril au théâtre Le République. Auto-promo.
Putain, mais arrêtez d'être égoïste, merde. Vous pensez qu'à vous, bande de narcissistes.
Narcisse.
Ouais, arrête de me couper le jour de mon anniversaire.
Oh ouais. Ouais, allez, on va enchaîner avec ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est la musique bien sûr. En live, c'est le moment d'accueillir les musiciens qui vont ambiancer votre dimanche soir. Djoubaka, on accueille Delgrès.
Eh oui, ils viennent de sortir un nouvel album, Promis le ciel, sur le label Piaz. Alors petit rappel des faits, leur nom est un hommage à celui de Louis Delgrès, anti-esclavagiste, antillais, qui s'opposa au furieux Napoléon. Et ceux que l'on reçoit aujourd'hui sont un power trio qui fait du blues, mais à l'esprit de la Nouvelle-Orléans, mais qui peut aller aussi vers le folk ou vers d'autres musiques. Et comme leur illustre homonyme, ils ont aussi une parole politique. On écoute Walking Alone, et on sait que le rêve, bah, il n'est pas forcément au bout de la route. À vous, les amis.
Baptiste Brondy et au sousaphone Raphaël Gouthière dit Rafji. Le sousaphone, c'est comment est-ce qu'on pourrait le décrire, Pascal?
Bah, c'est un gros tuba. Ouais.
C'est un instrument qu'on voit souvent dans les fanfares à la Nouvelle-Orléans quand il y a des enterrements. Il y a cette espèce de gros pavillon de cuivre qui domine toute la foule. C'est ça le sousaphone, c'est un peu l'instrument roi de la rue.
Qui s'enroule autour du corps tel un boa constricteur avec une énorme bouche au-dessus.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup. Vous êtes aussi en tournée à Toulouse le 20 mars, Aix-en-Provence le 22. Je donnerai d'autres dates parce qu'on va vous retrouver à partir de 19h dans la deuxième heure de l'émission pour une reprise inédite. Merci beaucoup, Delgrès.
Merci.
À tantôt. Merci également à Bruno Mourlan et Tiffany Battistel à la prise de son et au mixage. En attendant, il s'est passé un tas de bêtises cette semaine. Vous avez bien suivi l'actu, tout le monde ici ?
Bon, sûr.
Ouais. Attends. Non, Jamil un peu.
Ouais, j'ai vu Guillaume chez Quotidien.
C'est l'actu, ça.
C'était la seule info de la semaine intéressante.
Il y a d'autres choses, je vous rassure.
Il y a mon anniversaire.
Oui, bah voilà, c'est ça. Allez, le journal.
Quand je regarde le texte de ces chansons, Kachaka par exemple, qui est l'ode à la levrette, je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal carnivore. Voilà.
Le journal des bonnes nouvelles.
Kachaka. Et on commence avec une très 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 bonne nouvelle.
Oui, pour justifier ses changements de position sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a expliqué qu'il faisait de l'ambiguïté stratégique pour brouiller les pistes face à la Russie.
Très bonne technique. Hé, Poutine, écoute-moi bien, moi je te prends, je te retourne.
Guillaume, qu'est-ce que vous faites là?
Je brouille les pistes, Charline. C'est l'ambiguïté stratégique. Ouais. Hé, Poutine, tu sens très bon sous les aisselles. Quoi? Tu as un très beau grain de peau. Ah. Je brouille. Vous pouvez pas comprendre. C'est un truc de la guerre, c'est des trucs de bonhomme, ça. Vous êtes là, non, moi je brouille à fond. Ambiguïté. Allez, on y va. Bonne nouvelle, Valérie Pécresse a assuré que lors des JO, l'offre de transport en commun serait à la hauteur des besoins.
Ah oui, bah c'est bien ça.
Oui.
Alors en revanche, j'ai une question.
Allez-y.
C'est Valérie Pécresse, la Valérie Pécresse qui pensait être à la hauteur pour devenir président.
Ouais, voilà, oui, ouais. C'est bien elle. Ouais. Mais pourquoi vous me demandez ça, Charline?
Non, pour rien.
Non, d'accord.
Non, pour rien, j'ai plus de questions. Non, okay. Non. Enfin, acheter des bonnes chaussures de randonnée quand même.
Oui, voilà. Oui, je pense.
Alors, excellente nouvelle, le président s'est enfin déclaré en faveur de l'aide à mourir dans la dignité.
Oui, et on a une pensée, évidemment, pour Manuel Valls.
Hein?
Bah, comme ça, au moins, quand il sera très vieux, il pourra enfin savoir ce que c'est la dignité. Bah oui.
Le gouvernement a trouvé un accord avec les élus corses sur un statut d'autonomie de l'île.
Ouh, excellente nouvelle!
Oui, alors, pardon, mais c'est le principe de ce journal, donc mais encore...
Meilleure nouvelle, je pense, de la semaine, de la vie même, si je peux me permettre.
Et la blague?
Une blague sur les Corses?
Ouais.
Ça va, merci, j'ai fait Netanyahou, mais les Corses, c'est quand même le niveau au-dessus, donc je préfère qu'on enchaîne pour des raisons de survie, tout simplement. Voilà.
Bonne nouvelle, selon une étude parue dans Science Advances, des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille associés à l'INSERM ont trouvé l'origine du groove.
Ça va intéresser Djoubaka, on peut l'écouter tout de suite. Voilà, c'est donc la ministre Olivia Grégoire qui chante du Clara Luciani, on aime. On vous en parle.
Audition toujours.
Oui, ouais, oui.
Lors de son audition devant les députés, Vincent Bolloré a déclaré, je le cite, « Je ne suis intervenu en rien, je ne suis au courant de rien. »
Mais vous savez quoi, Charline? Moi, je le crois très sincère.
Ah ouais, c'est oui. Quand il dit « je suis au courant de rien », vous le croyez?
Oui. Bah, il s'informe que sur CNews, donc il n'est pas informé, le gars, c'est normal.
Évidemment. Et puis, selon une étude publiée mercredi, certains sons pourraient contribuer aux efforts de restauration des écosystèmes coralliens endommagés par le changement climatique et l'activité humaine.
Oui, et ces sons, on peut les écouter, Charline. Voilà, bientôt dans la playlist France Inter.
Dieu nous en garde.
Oui.
Excellente nouvelle, Le Monde a révélé que la biographie de Jordan Bardella a été écrite avec l'aide d'un journaliste de France Info, Jean-François Aquili.
Oui, attendez Charline, c'est pas trop une bonne nouvelle pour Radio France, ça j'ai l'impression.
Ah ben si, Ah, c'est bien la preuve qu'il y a du pluralisme sur nos antennes.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Alors. C'est vrai.
Ah ben...
Et d'extrême gauche et d'extrême droite, c'est
les
bien,
deux,
voilà.
Les deux. Média Toujours, le géant du streaming Spotify commence à diffuser des clips sur son application.
Oui, et quel est le premier clip?
On ne s'en lassera jamais. Je préfère vous tenir au courant.
Moi si. Alors, en parlant de voix de velours, il est temps de retrouver notre spécialiste en plateau, Aymeric Lomprey. Alors Aymeric, la semaine dernière, vous aviez voulu nous parler des Jeux Olympiques côté sport, et c'était comment on dit
cool, cool.
Non, c'est pas ça le mot.
Un échec.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est plutôt ça. Et cette fois-ci, c'est côté organisation et accueil du public. Hein.
Yes, it is, Charline.
Voilà.
I want to speak about the Olympic of the Marseille Games of America de Pierre Coubertin.
Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire en anglais?
Yes, of course, Charline, of course. Do you see my umbrella?
Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez?
Charline, vous n'êtes pas prêt à accueillir les JO, Charline. Il faut savoir manier la langue qui expire.
De Shakespeare. C'est ça?
C'est qui, lui?
Hein?
Shakespeare. C'est Javelot, lui? Hola, que tal, muchacha? Parabaya, la bama.
Bon, allez, stop, c'est n'importe quoi, là.
Et Vladimir, vodka, Smirnov, papa,
vite, prendez, vite. Stop.
Échec. Encore un échec.
Que non, je dirais que ça n'a pas marché. Tout simplement. J'en perds mon micro. Mon micro a voulu décéder. Et pas tellement dans la dignité, je peux vous dire. Voilà. Hop, allez. Heureusement, le prochain point sur l'information avec le journal de la rédaction, ce sera à 19h. Vous écoutez France Inter, il est 18h27. Et Juliette Arnaud, une actualité vous a littéralement stupéfiée.
Oui, j'ai comme ça.
Voilà. Voilà. Une équipe américaine de basket universitaire a voté pour la création d'un syndicat.
Aux États-Unis.
Ouais. Wow. Le basket universitaire américain génère beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, les joueurs n'en profitaient pas. The times they are changing, comme disait Bob Dylan. Les temps sont en train de changer. C'est pour Aymeric. Ah. Et cela vous a rappelé un grand roman de Pat Conroy qui s'intitule Saison Noire.
Parce que des années de basket universitaire, Pat Conroy en a vécu 4, de 1963 à 1967, suite à quoi, il n'est pas devenu basketteur pro, mais prof de lettres, puis écrivain de fiction. Écrivain majeur, célébré, adapté plusieurs fois au cinéma, mais basketteur, c'était fini, nini. Alors que le basket, on le voit dans le livre, c'était vraiment sa passion et sa joie. Et puis au début des années 2000, Pat Conroy s'approche doucement de ses 50 ans. Et ça, mon Dieu que c'est dur, mon Dieu que c'est pas de la tarte. Et il s'emploie à écrire une non-fiction. Ce que fut cette dernière saison où il s'est vu, où il s'est pensé comme un basketteur. Et ça a été une saison de défaite. D'où le titre, Saison Noire, Losing Season en anglais. Et d'ailleurs, dans le livre, il cite un de ses anciens coéquipiers surpris de ce projet, limite indigné, qui lui fait « Mais enfin, pourquoi t'écris ce livre, Pat ? Personne n'a envie de lire un livre sur une équipe qui perd. » Et il a raison, ce coéquipier. Parce que de la même manière que la culture et la pop culture nous ont gavés depuis des siècles d'histoires de vengeance pleines de gloire et jamais de récits valorisant le pardon, nous, on préfère le halo de la gagne à la brume de la défaite. On sait tous que Michael Jordan n'est pas exactement un être humain formidable. Mais on considère que c'est le plus grand basketteur de tous les temps, le héros absolu, le gars qui gagne, a toujours la meilleure histoire. Et bien, Pat Conroy n'a pas été Michael Jordan. Et je vais le citer, il a dû inclure le mot « perdant » dans son CV et vivre avec le regret d'être médiocre, d'en souffrir et puis d'accepter cette vérité. Et croyez-moi, c'est pas faute d'avoir tout mis pour être un champion. Pat Conroy découvre le basket enfant. Il dit que c'est un endroit merveilleux où abriter son enfance terrifiée. Terrifié par qui ? Par un père héros de guerre, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, pilote de chasse dans les Marines, colonel. Vous voyez à peu près l'éducation Montessori ? Pas ça du tout. Et en fait, on comprend très vite que plus qu'un abri, le basket a été pour lui, gamin, ado, une sauvegarde. Il parle de lui en disant « J'étais un garçon abîmé qui faisait rebondir un ballon au lieu de tuer son père. » Un garçon qui a passé 21 ans sous sa férule a tenté d'apprendre comment devenir un fils que ce type-là pourrait apprendre à aimer. Et puis, la dernière année, au basket universitaire, son coach va pratiquer les mêmes méthodes que son père. Violence, mépris, rabaissement, dévalorisation et démolir méthodiquement sa propre équipe. Est-ce que ça en fait pour autant un livre déprimant ? Eh bien, justement, pas du tout, bien au contraire. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, toutes ces histoires de vainqueurs qui vainquent, je n'ai pas l'impression que ça nous a bien rendu service en tant que civilisation. Merci, bisous, merci.
Et le rideau du Petit Théâtre de la Radio va s'ouvrir sur Tony Estanguet. Ce sera Aymeric Lomprey.
Il va tenter de mener une causerie positive pour qu'Emmanuel Macron, Guillaume, Anne Hidalgo, Guy Edré, Amélie Oudéa-Castéra, Juliette, abordent de la meilleure des façons cette grande fête sportive que sont les Jeux Olympiques.
Bon alors, si je vous ai réunis, c'est pour parler des Jeux Olympiques de cet été. C'est pas que je sois inquiet, mais en ce moment, je sens comme une forme d'apathie.
Ah,
qu'est-ce qu'elle a?
Non, c'est Anne Hidalgo, parce que dès qu'elle entend le mot dati... Voilà, et ça fait ça à chaque fois. Non mais calme-toi. Oh, dja-dja. Y a pas moyen, dja-dja.
Bon. Monsieur le Président,
oui.
C'est les Jeux Olympiques. L'important, c'est de...
gagner, vaincre, triompher, crabouiller la gueule des autres en leur tatanant.
Non, Monsieur le Président.
Ah bon?
Non.
Non.
La défaite peut être salvatrice.
Ah bon, d'accord, mais comme je ne l'ai pas connu, je peux pas savoir.
Attends les Européennes.
Ébric, hésite pas, restez dans le sketch.
Je reste dans le sketch. Bon, donc,
ouais.
Là, j'ai envie de faire l'accent marseillais, mais non. Donc, l'objectif, c'est de montrer l'image de la France et des Français au monde entier.
D'accord.
Donc, France, c'est un pays de...
Feignant.
Râleur.
Feignant.
Abruti.
Feignant.
Non. La France, c'est le pays de...
Dja-dja. Oh, dja-dja. Y a pas moyen.
Putain, c'est super ce que tu fais, mais non. De la même manière que la Belgique est devenue le pays du seum,
La France
doit être le pays du fair play. Et qui dit fair play dit élégance. Qui dit élégance dit classe. Qui dit classe dit Ben & Jerry. Qui dit Ben & Jerry dit solidarité. Il faut donc de la solidarité.
C'est quoi ça? Comment vous appelez ça?
Ces Jeux Olympiques, c'est ensemble qu'on les a bâtis.
Ah! Oh, dja-dja. Y'a pas moyen.
Attention. Chacun son poste pour donner son meilleur, ok? Ok? Anne, c'est pas Manu. Manu, c'est pas Amélie. Amélie, c'est pas Dati.
Oh, dja-dja.
Muscle ton jeu, Anne. Muscle. Si tu ne muscles pas ton jeu, tu vas voir de grandes déconvenues.
Non.
Et tu vas... Putain, j'avais envie de le faire, l'accent marseillais. Non, attends. Tu vas devenir ministre des sports.
Oh non, et oh, hein, ça va, hein, c'est
mauvais. Putain, là, fait chier, merde. Entre l'autre, là, qui dit de la merde, toi, qui, comme une zinzin.
Moi, j'ai rien dit.
Ta gueule. Tout le monde, ta gueule.
Ah, c'est donc ça, l'élégance à la française.
Ah ben, c'est bien parti, ce JO. Merci Juliette Arnaud et toute sa troupe. Merci également à Camille Hermite et Sofiane Mercoud à la vidéo, ainsi qu'à Cédric Depré et Brahim Elmouden à la lumière. Allez à nous, Djoubaka, on va voyager un petit peu en musique, se rendre dans un endroit des Caraïbes que je vous laisse deviner, ou avec cet extrait de la chanson du jour. Ouais, ça c'est les Fugees.
Oui.
Qu'est-ce qu'il raconte là, Djoubaka?
Alors cette chanson, Fujila, ben pour moi c'est un peu l'occasion de parler d'Haïti, donc un pays où on sait qu'il ne se sortira pas des ronces avant un bon moment. Haïti est séparé en 10 départements et le 11e, c'est celui de la diaspora. Environ 2 millions de personnes dispersées sur cette bonne vieille terre. Et les Fugees rassemblent deux Haïtiens, Wadcliffe Jean, et là je prends mon élan, Prakazrel Michel, plus connu sous le nom de Praz. Ça va déjà beaucoup mieux pour moi. Et Laurie Nin, donc une amie de lycée. Et aux USA, malgré qu'ils aient fui différentes dictatures, les Haïtiens ne sont pas du tout considérés comme des réfugiés politiques, mais économiques. Ce qui sous-entend que leur expulsion ne tient qu'à un cheveu. Alors, au milieu des années 90, quand la formule gangster est dans tous les flots de rappeurs, les Fugees proposent un autre son de cloche, un petit bonheur à portée de refrain. Leurs références, bah, ce sont celles de Marley et pas d'Al Capone. Et ils ont enregistré Fujila dans leur studio, le Booga Basement, dans la banlieue de New York. Dans cette chanson, en fait, ils mettent un point d'honneur à démontrer que même si on est réfugié, il n'y a aucune raison de se laisser enfermer dans ce statut. La liberté n'est pas vaine, il y a toujours un moyen légal de voir plus haut. Peu après le succès, Laurie Neal va créer une fondation pour améliorer les conditions de vie des déplacés qui arrivent à New York, des camps de vacances, etc. Et leur studio, le Booga, deviendra pendant un temps un lieu d'hébergement pour les réfugiés haïtiens. Allez, au revoir François.
Il passe par Haïti,
Paris,
l'Espagne, peu partout, New York City. Alors viens voir, c'est dans leur répertoire.
On était numéro 10, Mener numéro 1.
Oui, clef, fils de vrai rappeur, pas gangster.
Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, chantons, oulala.
From Brooklyn to Jersey, Manhattan to Paris. Fuji's international like no other MCs. Like Ichini, Sang-Chi, Gonoko, Shichihachi. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, baby?
She looked at me and smiled, I started losing control.
My French wasn't up to par, so I rocked in Creole.
Li passe m de calotte, moi tombé rêvé hambré. Même sous conduit football, dernier goal lancé pour Pelé.
Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we take.
J'ai l'homme à l'aigle, non, on a mis fond.
And they get down for they dough, but
mucho trabajo, poquito dinero.
But soon I'll be counting pesos with my peeps in Mexico.
But for now I'm in La Bamba, pushing lyrics with the song.
Crews get confused when I say konnichiwa, so I move from Japan and make plans in Korea.
Like na 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 na, anyang hashamika, ha ha, suli, serang mamni, ha ha.
Vas imaginer nos boys, jamais me détruire. Je sens les faibles de bien loin de l'atmosphère quand j'ai respiré. Ta mentalité en fautif ne causera mort, cause imbécile. Qui pense que la poésie est facile? Des milliers ont continué à mystifier. En rêve profond réalisé à travers les mots de réfugiés. Alors viens voir ces grands mots répertoires. Si tu connais pas mon histoire, rappelle les réfugiés sans l'âge. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the remix sound that the refugees bring. Ooh la 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 la.
La voix de Lauryn Hill et les Fugees.
Dans une version, vous avez remarqué, oui, cause en français, en créole, en japonais, en espagnol, c'est pour tous les réfugiés.
Fugila, avec cette pensée pour Haïti. Merci beaucoup, Djoubaka. Et hop, un titre de plus dans la playlist politique que Djoubaka construit depuis le début de la saison. Et puis il y a une place de choix dans le grand dimanche soir de France Inter, c'est celle de l'ouverture à la nouveauté. Alors je vous propose une entrée en scène dans vos oreilles à la radio de Sophie Loustalot. Bienvenue Sophie. À vous le micro de France Inter pendant 3 minutes de stand-up radiophonique. Et au bout de 3 minutes, vous entendrez ceci. À toi Sophie.
Merci beaucoup, merci Charline. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Sophie, ouais, comme elle a dit. Et je ne sais pas si vous savez, mais Sophie, ça veut dire la sagesse en grec.
Mm-hmm. Ben voilà.
S'ennuie déjà. Moi, j'ai pas envie d'être sage, quoi. J'ai envie d'être un truc sexy, quoi. Moi, j'adorerais qu'à la fin, là, vous vous disiez « Ah, c'est marrant, elle n'a pas une tête à s'appeler Sophie. » Je vous remercie. La dernière fois que j'ai dit à quelqu'un que je m'appelais Sophie, il m'a dit « Ah ouais, Sophie ? Comme Sophie la girafe ?» J'ai eu envie de me barrer de cette conversation, quoi. Il m'a dit « Mais non, c'est mignon, Sophie la girafe, c'est un truc pour se faire les dents et qui couine. » T'es en train de me dire que même elle, elle a une vie plus excitante que moi, quoi. Moi, je peux te dire, il n'y a personne qui me fait couiner. Hein, je suis célibataire. Ouais. Mes amis, elles me disent toutes, tu sais, Sophie, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Bah, mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc. Je ne cherche pas. C'est pénible, là, ces petites phrases condescendantes, quoi. T'sais, en plus, ça vient toujours des couples. Moi, j'ai l'impression que les couples qui parlent des célibataires, c'est comme les Parisiens qui parlent de la province. Ils sont là, c'est sympa, mais deux jours dans l'année, quoi. J'ai une pote, la dernière fois, elle me dit, mais ça t'arrive parfois de parler toute seule? Ouais, parfois, je chie par terre aussi, pour me surprendre. On est des animaux, quoi. Non. Je te jure, moi, depuis que je vis seule, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec la bouffe. La dernière fois, j'ai mangé des brocolis et des schtroumpfs. C'était la forêt de brocéliande dans mon ventre. Je sais plus quoi manger, quoi. Là, je errais chez Picard. J'ai fini par acheter un pain surprise. La caissière, elle m'a dit « Une petite fête ?» J'ai fait « Ouais, ouais, ouais !» Ça fait 3 ans que je vis seule. Je suis en train de lâcher la rampe, là. J'ai pas encore de chat, mais je fais des puzzles. Je fais des puzzles sur mon iPad. Et après, je les publie sur Instagram. Butez-moi, vraiment, que ça s'arrête. Même avec ma famille, je me rends compte, j'ai plus rien à partager, quoi. Je vois, on a un groupe WhatsApp, je ne sers à rien dans cette conversation, quoi. Je vois mon frère et ma sœur, ils viennent d'avoir un enfant, là. Pas ensemble, évidemment.
Non, non, ça aurait été excitant. Non, non, un chacun, tu vois. Et eux, bah, eux, ils partagent des photos des petits. Tu vois, ma mère, elle envoie des photos de paysages. Hein, tu sais, avec des citations écrites dessus, là, je sais pas si vous voyez. Accroche-toi à la vie. Oh, ta gueule, putain. J'ai craqué, là, il y a pas longtemps, j'ai envoyé des nudes. Juste pour les faire chier, quoi. Tu sais, je suis carrément allée dans une boutique de lingerie avant, la vendeuse, elle m'a fait « C'est pour la Saint-Valentin ?» J'ai fait « Non, c'est pour mon père. » Et il a adoré. Comme quoi, c'est bien éloigné, là, de Sophie la girafe, hein. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Bravo, Sophie Loustalo. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Sophie, dans ce studio où une table est installée, comme dans tout studio radio. C'est très prometteur. Vous n'avez pas, vous êtes en train de construire votre spectacle. Hein.
Complètement, oui. J'espère l'avoir pour septembre.
Oh, donc là, c'était vraiment... c'était tout début.
C'était le miel.
Ah ouais. Sophie Loustalo, en tout cas, on peut vous suivre sur Instagram, où on peut déjà découvrir votre talent. Sophie...
Et les puzzles aussi, du coup.
Et voilà. Et les nudes ou pas? Dites oui.
Et plus
dites oui. Loustalo, Loustalot, dites oui.
Des nudes.
Voilà. Bam. Restez avec nous, vous êtes sur France Inter, et on va passer à une séquence qui m'émoustille. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais queener comme Sophie la girafe, quand on mord dedans, vous allez voir. Mais ça me fait ça quand on parle de linguistique.
Voilà, Charline a des goûts très particuliers.
Ben oui, je sais, c'est, ben oui, c'est, chacun ses travers. Aujourd'hui, Laëlia Véron, maîtresse.
Maîtresse moi, je vous signale que je suis entre les deux, donc je ne suis pas hyper tranquille là.
Guillaume, ne te plains pas.
Maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans. Vous ouvrez un chapitre sémantique. Et au-delà du français même. Pardon, je ne vous mets pas dans très bonnes conditions pour commencer, je me rends compte.
Sémantique multilingue, Charline, aujourd'hui.
Voilà. Allez, fais la queenie.
Ça doit être décompté de ma chronique ce temps, Ramzi, je vous préviens. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de mots pour désigner l'ailleurs. C'est par exemple quand on dit Petaouchnok. D'ailleurs, j'utilise dans cette chronique l'ouvrage du même nom de Ricardo Chavoleda, Petaouchnok. On dit en français aller à Petaouchnok pour dire on ne sait pas trop où, mais loin. On peut dire aussi trifouille les oies, perpète les oies. Et en Belgique, on a des équivalents, n'est-ce pas?
Ouais, on peut dire aoutiplou. Ou à Foufni les Berdouilles.
Voilà, et puis ça peut se décliner, non mais c'est vrai, par exemple, j'ai entendu Aoutsiploute les bains de pied, comme en français on a Perpète les bains, les alouettes, les andouillettes, la galette, tout ce que vous voulez. Et on a l'impression que ça ne veut rien dire, mais en fait, si on peut décoder ces noms de lieux, ces toponymes, et ce qu'ils disent de notre imaginaire, de l'ailleurs et de l'autre. D'abord, généralement, ce sont des mots qui renvoient à quelque chose d'indistinct, de sale, de moche, berdouille, c'est la boue. Mm-hmm. Et on s'est demandé si le schnock de Petaouchnok, ça ne voulait pas venir de l'alsacien qui veut dire stupide, un vieux schnock. Et puis il y a la sonorité Petaouchnok, perpète les oies, hein, c'est bien l'idée de péter. Joyeux anniversaire, Aymeric. Et ça marche.
Comment tu sais?
Je sais beaucoup de choses. Ça marche aussi dans d'autres langues. Hein. Par exemple, en lituanien, Guédré, comment on dit un trou perdu?
Bezdonis, et ce qui en fait veut dire littéralement le lieu où on pète.
Ben voilà, encore une fois, vous avez vu comme je mobilise la richesse linguistique.
Donc, bienvenue sur France Multiculture.
Voilà, c'est ça. Et quelquefois, ces mots de l'ailleurs sont imaginaires, comme Petaouchnok, mais quelquefois, ils renvoient à des lieux réels, même si on ne le sait pas toujours. Par exemple, en français de France, on dit c'est Babelwed pour dire c'est le bout du monde. Et si vous ne l'avez pas dit ou jamais entendu, demandez à vos parents. Hein. Or, Babelwed, c'est un quartier bien réel d'Alger. Pareil, on a employé partir à Tataouine pour dire aller à l'autre bout du monde et risquer de ne pas revenir. Et pourquoi? Parce que le sens de ces mots est lié à l'imaginaire de l'histoire coloniale française. Tataouine, c'est une ville de Tunisie où les colons français ont construit un bagne particulièrement mortifère. On ne revient pas. Mais vous voyez, Babelwed et Tataouine ne peuvent devenir des Petaouchnok qu'en français de France. Ce serait absurde de les employer dans ce sens-là en français algérien ou tunisien. En fait, quand on veut évoquer l'ailleurs, quelquefois les références sont largement partagées entre les cultures. Sibérie, par exemple, c'est utilisé en plusieurs langues pour désigner l'imaginaire d'un pays froid et inhospitalier. Mais le plus souvent, chaque pays a son Petaouchnok à lui, selon son histoire et ses références culturelles. Et ça nous montre à quel point notre vision de l'espace est très ethnocentrée, hiérarchisée. Parce que des fois, ces toponymes sont des lieux positifs, mais souvent, c'est le repoussoir. Hein. C'est ceux qui ne sont pas civilisés, ceux qui ne sont pas comme nous, les barbares. Et on retrouve cette tendance à la hiérarchisation, même sur une échelle plus petite. Par exemple, dans le nord de l'Italie, on va dire Canicati, le nom d'une ville du sud en Sicile, pour désigner un lieu primitif, parce que le sud reste associé dans certains imaginaires à un espace sauvage et reculé. Mais Canicati a à son tour son propre Petaouchnok, Carapipi, une déformation du nom d'une encore plus petite commune de Sicile, Caropepe. Donc pour finir, on peut préciser que quand même les connotations liées à ces villes peuvent changer. Tatooine, ça a aussi inspiré le nom Tatooine dans Star Wars. Et il me semble que l'emploi des Petaouchnok s'affaiblit quelque peu. Peut-être parce qu'avec le développement du tourisme, notre rapport au lointain a changé. On veut être emmené au bout de la terre, au pays des merveilles, parce que c'est connu, la misère est moins pénible au soleil. Mais peut-être qu'avec les évolutions climatiques, notre rapport à l'ailleurs changera encore et que la froide Sibérie va finir par devenir un nouvel Eldorado.
Laëlia Véro, merci. Donc, si on veut fonder une compagnie aérienne qui irait à Petaouchnok, on l'appelle Air Petaouchnok.
Ben pourquoi pas,
ça. Voilà. Et si ça se trouve, en Tunisie, ils disent Clermont-Ferrand. Voilà, j'ai bien compris.
Ils ont forcément leur Petaouchnok.
Voilà, j'ai bien compris la chronique.
C'est ça. Bravo, ça.
Merci, bien Laëlia. Joué. N'hésitez pas à partager cette chronique, ouais, notamment sur YouTube. On est le dimanche 17 mars, l'éphéméride. C'est donc l'anniversaire d'Émeric Lomprey.
Ah oui.
On l'a dit. C'est aussi la Saint-Patrick.
Oui.
C'est bien tombé cette histoire, hein, j'ai l'impression. Et forcément, une journée mondiale ou nationale ou régionale de quelque chose, de quoi on s'en fiche, c'est le comment qui nous importe, avec Constance. Debout la France Inter, on sort la tête de son cucu. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du sommeil. Oh, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Je suis en pyjama, oh putain. Ah, c'est un cauchemar, j'ai venu travailler en pyjama. Oh la honte, j'ai encore plus l'air d'une cassosse qu'Émeric Lomprey. Oh là là, voyez, je suis découragée. Je vais me recoucher, sortez tous de ma chambre. De toute façon, aujourd'hui, c'est dimanche. Le jour des cheveux gras, de la laine de rat et de la culotte en coton qui ressemble à un sac de jute autour de grosses patates molles. Le jour du cul qui dégage une odeur musquée et rassurante parce que la douche du dimanche, c'est péché. Le jour du petit déjeuner au lit et du... Ah, mince, ça y est, j'ai des miettes de croissant dans la raie. Mais en fait, j'ai pas à complexer. Attends, je sais que les auditeurs, au moment où ils nous écoutent, ils sont habillés comme des touristes allemands aveugles. Ça vous aurait fait un deuxième trou du cul de faire des efforts vestimentaires, les auditeurs ? Non, non, allez, faut que je reste positive. Tolérante, c'est le psy du commissariat qui me l'a dit. On attire ce qu'on dégage. Dégage de... Dégage ? Dégage de ma vie, j'en spleen. Prends tes clics et tes claques et ton clic-clac dans lequel on se coince les doigts. Va-t'en, salaud, retourne chez ta pute. Allez, je sors du... Allez. Je sors de mon lit. Je vais dévorer la vie avant qu'elle me dévore. Bah oui, mais aujourd'hui, c'est dimanche. Moi, j'aime bien dormir. En plus, c'est le jour où on change les draps. Comme j'aime cette petite odeur de lessive du dimanche effaçant la luxure du samedi soir. En fait, je crois que je préfère l'odeur de la lessive à l'odeur de la teub. Est-ce que je peux être fleur bleue? Et puis dans mes rêves, j'ai pas d'ampoule aux pieds, j'ai pas de courroie de distribution de la bagnole à changer et personne ne me juge quand je mange une cacahuète que je retrouve sous un coussin de mon canapé alors que le dernier apéro organisé à la maison date d'il y a 2 ans. Enfin, je crois que c'était une cacahuète parce que ça avait plus un goût de poche des eaux séchées. Ah mais oui, c'est ma copine Julie quand elle avait accouché à la maison en 2002. Oh, qu'est-ce qu'on avait ri quand j'avais sectionné son cordon ombilical avec un petit couteau à beurre parce que les couteaux qui coupent c'était la vaisselle. Allez, je me lève, c'est décidé. De toute façon, une fois que tu t'es levé pour aller faire pipi, c'est cuit pour te rendormir, attends. Puis c'est le moment où tu commences à te poser des tas de questions la nuit entre 4h et 6h du matin. Une fois, j'ai fait une insomnie parce que je me demandais qui était l'inventeur de l'invention. En tout cas, ça j'en suis sûre parce que je suis tombée dessus sur le Trivial Poursuite récemment. L'inventeur de la sieste crapuleuse, c'est Morphélation. Et l'inventeur de la micro-sieste, c'est un ingénieur du son. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et l'autre jour, je suis allée chez Nicolas, le marchand de pinard, et je lui ai demandé, est-ce que vous vendez de l'eau?
Alors cette blague n'a rien à voir avec le thème du sommeil, mais elle me fait rire la vache. Est-ce que vous vendez de l'eau dans un magasin de pinard? Et puis l'autre jour j'ai demandé chez d'artiste s'ils vendaient du pain. Bah la blague elle marche vachement mieux chez boulanger. Hein. La vache, je suis hyper drôle, c'est génial. Vous savez quoi? J'ai un humour à dormir debout.
Merci Constance. Vous pouvez voir son joli pyjama en vidéo sur YouTube. Et vous pouvez la voir sur scène aussi. Constance est de retour avec un tout nouveau spectacle intitulé Inconstance. L'équipe a assisté à la première et on vous le recommande chaleureusement. Constance, partout en France.
Charline, je vous sens à la fois gracieuse et distante. Avez-vous déjà regagné le perchoir?
Oui, je suis un petit peu, je me suis un peu élevée. Voilà. Et j'invite tous les chroniqueurs à s'asseoir parmi le public du Studio 104. Pas sur le public, Aymeric. Prenez un siège vide de préférence, merci. Vous êtes donc 800, ce qui forme une très grande assemblée citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Cette semaine, la Cour des comptes a estimé qu'il fallait faire 50 milliards d'économies d'ici 2027. Nous avons donc 8 minutes chrono pour trouver ces 50 milliards. Ne perdons pas de temps, madame.
Oui. On est 800 dans cette salle, c'est bien ça?
Oui. Ouais,
ouais. Bah alors c'est très simple, si chacun d'entre nous donne 62 250 000 euros de sa poche, le problème est résolu.
Alors, qui a pris son chéquier avec lui ce soir? Ah bah voilà, j'en étais sûre. Voilà. Personne veut donner. Vous êtes un public de droite.
Attendez, parce que moi j'ai entendu Bruno Le Maire qui a annoncé 10 milliards d'économies.
Oui, mais Pierre Moscovici lui évoque 50 milliards.
Non mais je comprends pas. On croit qui alors?
Bah, en fait, vous nous demandez vraiment de choisir entre Bruno Le Maire et Pierre Moscovici.
On n'est pas là pour souffrir, ok?
Oui, je sais, pardon. Bon. Madame là-bas avec ses lunettes, oui?
Oui, on pourrait fusionner des services publics.
Ah bon, lesquels?
Bah, Radio France et France Télévisions.
Merci Madame la Ministre, vraiment très flattée que vous soyez parmi nous ce soir. Hein.
Je suis fan de votre émission, d'ailleurs je souhaite qu'elle soit reconduite l'année prochaine. Oh,
bah, merci Madame Dati, vraiment ça fait plaisir. Enfin si on peut fusionner autre chose, ça nous arrange, je vous cache
pas. Et si on fusionnait les écoles et les hôpitaux?
Oula, c'est-à-dire?
Bah, on ferait cours de CP en gériatrie, ça ferait de l'ambiance. Hein.
Ou alors on fusionne la justice avec le sport, et le premier qui arrive au premier ou 100 mètres, bah, il est relaxé.
Génial. Donc tout le monde a bu avant de venir. Donc
c'est... Non, madame a raison. Ouais. Hein, on pourrait appliquer Parcoursup à l'hôpital.
Oh là là.
Les patients font des vœux. Hein? S'ils doivent se faire opérer de l'appendicite, ils font une lettre de motivation. Et puis après, c'est l'algorithme qui choisit, en fait.
Ok, donc vous voulez nous tuer, quoi. C'est... Bon, ok. Alors, j'ai l'impression que vous votez déjà pour cette mesure, faites attention. Donc, défusion, c'est la pire solution pour faire des économies?
Alors, non. Il s'agit de synergies visant à améliorer la rentabilité sur les segments les plus productifs.
Ouais, tout c'est ce que je viens de dire, c'est faire des économies, quoi.
Oui, mais si on dit juste faire des économies, moi, je ne sers plus à rien, vous voyez.
Et vous êtes qui?
Je suis consultant en consulting.
Bon. Madame, au fond.
Oui, on pourrait fusionner des ministères, mm-hmm. Le sport, la jeunesse et l'éducation.
Non, mais on a dit des solutions sérieuses, madame. Merci. Alors justement, l'éducation, c'est un secteur en souffrance qui ne supportera pas plus d'économies. Alors on va faire un état des lieux avec Jamil Le Schlag.
Merci, merci Charline. Ouais, les gars, c'est incroyable. Et en ce moment, l'éducation nationale, ça va pas fort. Hein. Je suis souvent invité dans des établissements en Seine-Saint-Denis pour parler un peu de mon parcours. Alors comment résumer l'état des écoles du 9-3? Bon ben, bienvenue à Mariupol, hein. Déjà, tarif, pas de chauffage, il fait moins 8, on se croirait à Aurillac, et c'est pas Poutine qui a coupé le gaz, hein. Ben, c'est Macron qui l'a pas allumé. Les élèves, ils se chauffent au feu de bois, tu sais, en fredonnant du Brassens, mais en mode Kerry James, ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore. Bon, après, faut connaître Kerry James. Et ouais, vu la moyenne d'âge aujourd'hui, on va plus chanter du Claude François. Et faut voir le retard qu'ils ont pris sur le programme scolaire. Hein. Les cartes accrochées en cours de géo. Il y a encore l'URSS et la Prusse. Aucune trace place de la zone euro. Tu sais, j'ai demandé aux enfants le nom du président, ils m'ont répondu René Coty. Ouais. Et dans les couloirs, mais c'est Jumanji. Tu sais, il y a des renards, des chevreuils, il y a même des rats gigantesques. On dirait Maître Splinter, normal qu'il y ait une pénurie de profs. Ils peuvent pas venir, ils ont tous chopé la peste. Mais le pire, c'est l'infirmière. Pour arrondir ses 20 mois, tu sais, elle dit du Subutex. Je l'ai croisé dans la cour, tu sais, avec sa blouse blanche. Hey, 3 € le cacheton. Et malgré cette hesse intersidérale, que fait l'État? Je vais vous le dire, hein. Il décide de filer des milliards à McKinsey pour des conseils, mais balance 2000 euros en Seine-Saint-Denis, un petit raccord de placo, un coup d'enduit, un vaccin contre le tétanos, ça fait de mal à personne. On n'est pas des punks à chiens, ça va, Emric? Happy birthday, man! Le seul truc qui m'énerve dans ces rencontres, c'est quand le proviseur me présente en disant « Vous voyez, Jamil a réussi. » Il s'en est sorti grâce à son travail, grâce à l'école et grâce à la République. Mais non, pas du tout. C'est grâce à Dieu. Oui, Allahu Akbar. Voilà. Oui. Mais il faut rire. Il faut rire avec leur méritocratie. Pour ma part, c'était de la mectobocratie. Mais ça n'a rien à voir. Seul un miracle du divin pouvait me sauver de mon déterminisme social. Mais toujours, hein, dans le respect de la laïcité, de Caroline Fourest, Manuel Valls, Christophe Barbier, Philippe Val, Raphaël Enthoven, franc-tireur, prétendant républicain. Oh, pardon. Mais... Parfois, je vais aussi dans les écoles des beaux quartiers de Paris. Là, par contre, c'est le grand palais. Hein. Belle hauteur sous plafond, verrière, des profs titulaires. Putain, ouais. Le comble du luxe. Normalement, j'y arrive et je pose des questions. Là, c'était le contraire. Il y a un petit de 12 ans, il a levé sa main. Monsieur Schlag, vous voulez faire quoi plus tard dans la vie? Putain. Contre Kems. Tu sais, en Seine-Saint-Denis, j'ai percé, mais chez les bourgeois, je ne suis qu'un valet, putain. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les amis.
Jamil Lechlag. Merci, Jamil. Ouais, donc, conclusion, on va pas toucher à l'éducation, quoi.
Non, moi, je pense qu'on devrait fusionner la poste avec l'armée.
Ah ouais, mais quel intérêt?
Bah, c'est-à-dire que moi j'habite au 4e étage, mmh, et mon facteur il veut jamais monter les escaliers. Donc je me dis que s'il vient en hélicoptère, ce sera plus simple, quoi.
Moi la poste, je la ferais plutôt fusionner avec le ministère de l'Intérieur.
Pourquoi?
Parce que comme ça, dès que la police chope un sans-papier, on peut le renvoyer directement dans son pays en colissimo.
Non, ça va pas bien, non?
Non, mais attendez, on ferait des petits trous dans le colis pour qu'il puisse respirer. On n'est pas des sauvages non plus.
Et on pourrait aussi supprimer tous les trucs qui fonctionnent pas et qui coûtent de l'argent aux contribuables.
Oui, exemple.
Les chroniques de Guillaume Meurice.
Ah non, pas d'attaque personnelle.
Non, mais y a pas de problème, Charline. Moi, je propose qu'on augmente la TVA sur certains produits.
Ouais, comme quoi?
Au hasard, la raclette. Bien.
Bon, du calme. Si on réfléchissait en termes de rentrée d'argent, alors, peut-être.
Oui, chaque ministère pourrait ouvrir une boutique et vendrait des goodies. Mm-hmm. Oui, comme des t-shirts avec des phrases choc. À l'éducation nationale, ça pourrait être la classe, mes deux fils sont à Stanislas.
Ah ouais. Oui, ou aux finances, ils pourraient vendre des mugs moins d'emprunt, plus de renflement brun.
Ouais. Alors, je sais pas si ça va être efficace, merci, mais je pense qu'on peut estimer qu'on a fait le tour. Alors, je vais énoncer la proposition de loi qu'on va voter ensemble après le journal de 19h. La voici. Pour ou contre la fusion de la Poste avec le ministère de l'Intérieur, afin de faire des économies, bien sûr, et d'appliquer une rigueur, je dirais, militaire à la distribution du courrier. Suspension de séance, je vous laisse délibérer. Nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
Et merci d'avoir choisi France Inter. Vous entendez la sonnerie? C'est la suite du grand dimanche soir et c'est avec vous Charline Vanhoulacker.
Merci Éric Delvaux et toute la rédaction pour ces informations. Nous sommes toujours en direct Et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, nous avons débattu en première heure pour trouver 50 milliards d'économies, comme l'a demandé la Cour des comptes. On a peut-être une solution. On va voter. Les 800 personnes qui sont réunies ici vont voter. Donc, pour ou contre la fusion de la Poste avec le ministère de l'Intérieur afin de réaliser ces économies et appliquer une rigueur militaire à la distribution du courrier. Alors, il y a déjà un vote invalidé qui est arrivé avant la question. Alors, il reste 799 personnes qui peuvent voter. Par applaudissement, qui est pour ? Quelques-uns. Par applaudissement, qui est contre ? J'ai l'impression qu'à 90%, cette proposition est rejetée. Et le grand dimanche soir s'étire jusqu'à 20h dans la radio, sur la bande FM. Et le streaming internet aussi en vidéo sur le site franceinter.fr. Avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Laëlia Véron, Constance, Djoubaka, Jamil Lechlag et Guédré. Delgrès revient toujours en live pour la reprise d'un tube de vous le saurez tantôt, bien sûr. Et voici notre invitée, la comédienne Pascal Arbillot.
Le grand dimanche soir, Charline Vaninacker.
Bienvenue parmi nous dans la radio, Pascal Arbillot.
Merci de m'accueillir dans la radio.
Vous vous produisez au Théâtre Antoine dans un spectacle intitulé Interruption. C'est un spectacle que vous avez adapté d'un livre de Sandra Vizzavona. Oui. C'est une avocate qui a vécu deux situations d'interruption volontaire de grossesse différentes. Qu'y a-t-il de si particulier dans ce livre pour que vous ayez eu envie de parler de l'IVG à travers lui au théâtre ?
Alors déjà, c'est une parole très libre, très vraie, et avec beaucoup d'autodérision et d'humour. Une parole réfléchie, et où il y a tellement de diversité de témoignages qu'on ne peut plus avoir un raisonnement idéologique ou avoir une pensée préconçue sur ce sujet, et qui permet aussi un spectacle de performance d'actrice aussi. Il y avait tellement de monologues incroyables, et donc c'est le mélange d'humour, de vérité et d'émotion qui fait qu'on s'est dit ça, on peut en faire quelque chose. Et on l'a adapté à trois, avec la metteur en scène Anna Levin-Sederman, qui nous écoute.
Coucou.
Et coucou. Et peut-être Sandra Vizzavona aussi nous écoute, et moi, on était trois.
Quand on va voir un spectacle sur ce sujet, on craint un truc, c'est le misérabilisme. Oui. Et bien là, pas de salisette, la mise en scène est ultra... Oui, j'aime bien les phrases de vieux. mise en scène ultra fluide, très vivante, un décor chaleureux, des lumières qui sont belles, qui sont poétiques. Bref, un moment profondément vivant. Oui. On parle énormément de vie. Est-ce que c'était ça que vous aviez en tête dès le départ ?
Oui, à la mise en scène, c'est vraiment Anna... qui l'a construite avec beaucoup de délicatesse, en utilisant tout le théâtre, la profondeur du théâtre. J'arrive du coup là du fin fond, on voit les cintres, on voit les vieux décors du spectacle d'avant. Tout fonctionne pas tout bien d'ailleurs. Il y a un soir sur deux, il y a un micro qui marche pas. Enfin bon, mais donc du coup c'est vivant.
Bien, ça,
pour
nous,
le coup,
on connaît ça aussi. On connaît ça.
Du coup,
ça
tout est vivant. Ouais. Tout est vraiment vivant sur ce spectacle. Moi, je sais jamais ce qui va se passer. Il manque toujours un truc, mais bon, c'est ça qui est magnifique aussi pour le théâtre. C'est que ça reste une performance, une expérience qui n'est jamais la même. Et j'ai oublié la question.
C'est très vivant. Et d'ailleurs, dans la mise en scène, il y a
la
aussi
mise en scène, oui. Et puis après, dans l'écriture, voilà, ouais. Dans l'écriture, on voulait un truc hybride, parce qu'on s'est dit, on va pas faire un catalogue de témoignages. Il faut qu'on raconte à la fois l'histoire de cet écrivain, cet auteur, qui elle raconte ces deux histoires d'avortement et qui finit par se rendre compte et en parler à ses parents, alors qu'il y a eu un tabou familial énorme, parce qu'évidemment l'avortement, ça parle pas que d'avortement, ça parle du silence, ça parle de la sexualité, plein de trucs. Je m'étouffe et j'oublie mon deuxième raisonnement. J'arrête de parler.
Bah, sur la mise en scène, il y a aussi à la fois des écrans,
et après
des actrices.
De se dire qu'on va faire un truc hybride. On va écouter des témoignages audio, vidéo, des images d'archives, et tout d'un coup il y a une comédienne qui va prendre la parole, arriver de la salle ou arriver du plateau, pour que ça reste quelque chose qui est toujours surprenant, mais qui n'est pas installé et qui n'est pas effectivement misérabiliste, et qui reflète aussi le fait, et ça l'auteur y tenait, un avortement n'est pas toujours un drame, et c'est d'abord un événement dans une vie, un événement et qui n'est pas le même, qui n'a pas la même, le même impact qu'on ait 16 ans ou 40 ans, qu'on soit en couple ou pas, qu'on soit amoureuse ou pas. Enfin, voilà.
Ou et qu'on donc, soit une jeune catholique, par exemple,
voilà,
incarnée par une comédienne.
Alors, elles sont en alternance, elles sont géniales, les trois comédiennes. Donc, il y a Sanda Kodrianou en alternance avec Elsa Gedge et Kenza Lagnaoui. Et qui sont des jeunes femmes de 35 ans qui ont été toutes ensemble au conservatoire avec Anna Lévy, la metteur en scène, et qui sont exceptionnelles.
Et pour éviter justement que ce soit un catalogue, c'est vrai que l'IVG, enfin la liberté à pratiquer l'IVG pour chaque femme en France vient d'entrer dans la Constitution. Oui. Pour autant, il n'y a pas l'avortement avec un grand A, et c'est ce qu'on voit qui est très très bien rendu dans ce spectacle, c'est qu'il y a des avortements.
Oui.
Et que limite, chaque femme qui est passé par là, avec une chose différente.
Ah ben, pas le même parcours, même médical, pas la même façon de l'apprendre, pas la même façon de le partager avec son conjoint, de le dire ou pas à sa mère. Parfois, ça peut être un peu anecdotique, parfois ça peut même être drôle. En tout cas, la façon dont elles en parlent souvent est assez cocasse. Je trouve ça assez, c'est magnifique, parce que on le sait, nous, même quand on a, enfin, pour celles qui ont eu des enfants, on peut pas, ça peut être l'enfer, une grossesse ou un accouchement, et quand on en parle après, on se marre, et c'est ça qu'il faut. Parce qu'on peut le partager, du coup, avec ses parents, avec les hommes qui sont à côté de nous. Et c'est ça qui comptait. Non, Aymeric est des, enfin, non.
Aymeric est assis à côté.
Mais non, même pas, même pas à part.
Mon anniversaire.
Surtout.
Non, un spectacle épatant. Nous sommes allés vous voir vendredi soir avec Juliette. Et on est ressorti tourneboulé, alors qu'on avait ri aussi, et pas mal ri d'ailleurs. Ça s'appelle Interruption. C'est au Théâtre Antoine jusqu'au 31 mars pour l'instant. Il y a une tournée qui sera prévue à la rentrée. Oui. Demain, lundi, Interruption se joue dans le cadre du festival Parole Citoyenne, avec une rencontre échange, et puis il y aura le festival d'Anjou le 17 juin. On vous recommande chaleureusement, alors parfois il y a des heures, ça peut être 14h ou 16h.
C'est bizarre.
Allez-y.
Mais allez-y quand même.
Allez-y, parce que c'est vraiment un spectacle qu'on vous recommande chaleureusement. Interruption, Pascal Arbillot est en notre compagnie jusqu'à 20h. Et puis on va faire un petit détour par la rue maintenant. On ouvre les portes du studio et on envoie Guillaume Meurice asticoter de questions la population.
Merci beaucoup Charline, merci. Oh là là, merci les gens. Merci à vous. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième guerre mondiale?
Ouais.
Je vois deux, trois tirs au flanc là, avec des corps de vendeurs à la Biocoop. J'ai le même, donc je suis comme vous, je suis un petit peu en panique, je vais me planquer, voilà. Mais alors, où ça? C'est ça la question du jour. J'avais d'abord pensé à Gaza, même s'il y a une grosse épidémie de cancer du côlon là-bas en ce moment. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a plus rien à bombarder. C'est comme aller à Saint-Étienne, ça risque pas d'être détruit. Ben, il n'y a plus rien qui tient debout, normalement on est tranquille. Ça c'est une bonne tactique, c'est pour ça qu'on a aimé dans l'émission. Quand Bolloré il va arriver pour détruire le service public, il va voir Aymeric, il va dire « Ah bah c'est déjà fait, on est tranquille ». Donc moi j'anticipe, alors pour savoir où partir, je suis allé au salon du tourisme, figurez-vous. Ouais, oui. Il y a plein de pays là-bas, allez venez, on se barre.
Moi je vous amène au Groenland, de la glace, oui, mais elles font aussi.
Est-ce que c'est pas un problème ça?
Oui, c'est un problème pour le reste du monde, mais pour le Groenland, la calotte, elle recouvre 80% de la destination et elle fait 3 km de long, donc on a le temps.
On est large, on est large. Si vous font chier le GIEC ou je sais pas quoi, là, on en a de la glace partout, alors Hugo Clément crève. Bon, non, mais c'est vrai que c'est bien le Groenland. Et ce qui est bien aussi, c'est les croisières en Arctique, ne serait-ce que pour voir les effets des croisières en Arctique.
Alors, sur la fonte des glaces... On constate le changement climatique, c'est aussi l'idée en fait de nos croisières.
Mais est-ce qu'on n'y participe pas en
Non,
ça
parce que en fait, nous, l'idée aussi, c'est que, donc, par exemple, les guides à bord constatent aussi chaque année la fonte des glaces, et nous, l'idée, c'est d'aussi sensibiliser les gens avec ça, parce que en fait, c'est par la compréhension aussi de constater vraiment en étant sur place que voilà l'impact que l'humain peut avoir sur ses environnements.
Depuis le bateau, on se rend bien compte hein, que c'est la merde. C'est comme quand vous cramez votre maison au lance-flammes. Après, c'est galère pour retrouver le tiroir à chaussettes. Alors, puisqu'on parle chaleur, partons pour une autre destination, l'Arabie Saoudite, un pays bien connu pour ses libertés, par exemple où l'homosexualité est passible de peine de mort, donc il n'y a pas eu de concert de Mylène Farmer depuis un bail là-bas. Allons-y quand même.
On essaie de faire du business propre en tout cas. C'est quoi alors votre cadre déontologique?
C'est difficile. Écoutez quand même, nous on travaille pas mal avec en B2B et là on est là sur le salon pour le B2C, s'ouvrir un petit peu plus.
Vous faites du B2B, B2C déontologique.
Ouais, c'est cohérent ce que je raconte ou pas?
Alors, sûrement, mais j'ai donc voilà, c'est un peu dommage. Après, ça dépend ce qu'on entend par déontologie. Alors, précisons un petit peu ma question.
Est-ce qu'on peut voyager en Arabie Saoudite si on est gay, par exemple?
Je pense qu'on le peut à partir du moment où, en fait, il faut qu'il y ait toujours cette dimension de respect.
Je peux pas se tenir la main dans la rue, quoi.
C'est une question un peu piège.
Ouais, c'est une question de vie ou de mort, surtout. Hein, donc, mais sinon, c'est sympa, en B2C, voilà. Bon, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression, de se barrer éthique. Ou alors, autre solution que je vous propose, on assume la bagarre et on se prépare tous ensemble pour la guerre. Et ça tombe bien, au Salon du Tourisme, il y avait un grand stand qui vantait le musée des blindés. Du coup, j'avais une question.
Qu'est-ce qu'on y voit au musée des blindés?
Ah, on va voir des blindés.
Bon, j'ai pas dit que c'était une question intelligente, hein, c'était une question. Alors, comme c'était plein de militaires et de connaisseurs de tout ce qui est bagarre, je leur ai demandé si on était prêt pour cette guerre qui arrive.
L'armée française, c'est une spécificité, sait tout faire. Maintenant, à notre échelle, donc un peu en miniature.
Enfin, on est prêt, mais en miniature.
Prêt à notre échelle.
Voilà, c'est une question d'échelle, en fait. S'il y a un conflit entre Vesoul et Sochaux, on peut gérer. Ben, on organise Interville, en fait. Hein. On met un costume à Juliette et top à la vachette. Allez, concluons avec quelques conseils pour bien vivre cette guerre.
Oui, mais...
Est-ce que vous avez des petits tips pour la Troisième Guerre mondiale?
Non, petits
conseils.
Mais de toute façon, personne ne peut se réjouir qu'il y ait un conflit.
Sauf les marchands d'armes.
Oui, mais enfin, bon...
Oui, mais enfin, bon, voilà, meilleure réponse du monde. Désolé d'avoir un petit peu spoilé la guerre. C'est vrai que c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est comme les gagnants du loto. C'est pas ceux qui jouent, c'est la Française des Jeux. Alors, bonne Troisième Guerre mondiale à toutes et à tous.
Oh non. Pas merci, Guillaume Meurice. Guillaume, j'en profite pour rappeler que vous publiez dans L'Oreille du Cyclone,
c'est vrai,
qui paraît au seuil,
oui,
à propos de petites emmerdes pour une blague.
Oui,
voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'emmerdes pour une blague, on en profite pour exprimer tout notre soutien à la dessinatrice Coco, qu'on embrasse bien fort et que son dessin dans Libé nous a fait beaucoup rire. Alors, Pascal Arbillot est en notre compagnie. Interruption, c'est au Théâtre Antoine actuellement. Le thème, c'est l'IVG. Est-ce qu'il y a... Vous pouvez vous rendre compte, palper la réaction des spectatrices et des spectateurs? Je veux dire, le rideau tombe, le débat s'ouvre?
Oui, beaucoup. Alors déjà dans la salle, au début d'ailleurs, il y avait beaucoup de commentaires sur certains panneaux qu'on mettait, les gens qui découvraient qu'au Japon, on pouvait encore pas avorter sans l'assentiment de son mari à la fin. Donc on entend, au début il y avait plus de... Il y a un bruit bizarre.
Non, c'est quelqu'un dans le public qui joue avec une bouteille.
Avec une bouteille. Ah,
pour fêter mon anniversaire.
C'était du djembé, c'est ça, en tout cas.
Ah non, il y a pas de anniversaire.
Non, pas du tout.
Oui, c'est mon anniversaire.
Mais vraiment, non. Non, ça y est, j'ai assez. Bon, au revoir. Non, attends.
Attends. Un petit peu du débat.
Alors, attends, qu'est-ce que je disais? Oui, et ce qui est frappant, c'est que depuis que la loi est passée, surtout, les gens parlent encore plus, restent encore plus, se lèvent pour applaudir encore plus, comme si ils se sentaient plus autorisés.
Ah ouais.
Je sais pas,
ou alors
galvaniser, ouais, de voir, parce qu'on a rajouté le carton depuis le 8 mars, la loi.
Avec l'inscription, ouais, dans la constitution de l'IVG. Ouais. Donc il y a dans la salle, vous voyez un avant et,
oui,
un après.
Ouais,
mais,
oui,
dans la composition de la salle aussi, les spectateurs.
Il y a de plus en plus de gens qui viennent en famille, avec leurs enfants, ou en couple, ou alors, ouais, trois générations. Alors qu'avant, il y avait plus de femmes au début, plus de femmes...
Comme quoi, il y a un impact même de simplement, ouais, graver dans le marbre.
Oui, et puis je pense que la parole s'est libérée depuis, avec tout ce qui s'est passé justement autour de ce débat.
Quand on pense IVG, on pense à une avocate, Gisèle Halimi, on, ouais, pense à une philosophe, Simone de Beauvoir, et puis on pense à une comédienne que notre époque est en train de ressortir, qui est Delphine Seyrig, et qu'on voit beaucoup. Il y a au moins deux images d'elle, et il y a sa voix. Est-ce que c'est bien de voir qu'une comédienne a compté dans l'histoire des femmes? Il y en a eu au moins une qui a pris la parole non-stop.
Non, puis elle n'a pas fait que prendre la parole. Elle a participé au MLAC, elle a utilisé son appartement pour pratiquer des avortements.
Elle a grillé sa carrière.
Ah, mais elle était exceptionnelle, d'une beauté incroyable, une voix sublime, une actrice dingue. Et en plus, elle s'est vraiment farci les vieux croutons de la télé publique de l'époque en leur disant vraiment ce qu'elle pensait. Et avec un niveau de construction intellectuelle, je n'ai jamais vu ça. Mais nous, on est des bleus. Enfin, nous, les comédiennes, on ne fait rien. Quoi. Pardon, enfin.
Si, si, on commence à en entendre.
Oui, mais on fait pas, beaucoup, je trouve, par rapport à. Ou peut-être qu'on n'a pas d'enjeu. Enfin, si, il y en a en ce moment, pardon. C'est énorme. Oui, tout. Mais je trouve qu'un engagement physique pour une loi qui n'était pas passée encore, donc elle pouvait aller en tôle. Enfin, je veux dire qu'elles ont pris des risques fous.
Oui, parce qu'on parle de bien. Enfin, vraiment, au tout début des années 70, oui. Avant que Simone Veil porte la loi à l'Assemblée nationale. On est en 2024 et je me sens pour autant. Toujours pas autorisé à vous demander si le sujet de l'avortement vous touche
c'est fou.
Personnellement.
Ben non.
Ce qui me laisse à penser que les choses n'ont pas tant avancé que ça.
Non, ça commence. Mais même moi, je me rends compte que je n'ai pas parlé à ma mère de certaines choses alors qu'ils dépassent l'avortement. Mais ma mère m'a parlé récemment. Ah. Mais c'est difficile. Hein, mais même j'ai des copines qui m'ont dit, tu sais, finalement, je le lis. Mais ça commence. Après, je peux comprendre, il y a une forme de pudeur, on n'a pas envie de s'étaler, mais ce n'est pas parce qu'on a le droit d'avorter maintenant qu'on va le faire. Ah, on va en parler tout le temps, on n'est pas bête. Mais non, moi, j'ai fait une fausse couche. Donc, j'ai eu un parcours médical aussi un peu compliqué et je me suis reconnue immédiatement alors que ça ne me concernait pas du tout l'avortement. Moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et bizarrement, je n'ai jamais été autant en empathie et en connaissance absolue de ce que peut ressentir une femme quand elle avorte.
Vous citez d'ailleurs une phrase extrêmement belle qui, je crois, est celle de
Chantal Biram, non ?
Oui, ouais. Qui travaille au MLAC. Et
ouais.
Qui dit,
entre la vie et la mort, les femmes choisiront toujours la liberté.
Oh. Et voilà pourquoi ce spectacle est tout à fait réjouissant. Interruption, car il est très positif et on sort à la fois en larmes et galvanisé comme ça. On vous dira qu'avec Juliette, on spoil, on a pleuré. Avec Juliette, on a pleuré.
Ah, on a pleuré salement.
Ouais,
ah
ouais, salement. Alors on vous dira ça après.
Triturer le poignet.
Restez avec nous. Comment on a fait comme ça. C'était, on reniflait, on pleurait, c'était terrible. Mais avec joie, c'est ça qui est fou. Les musiciens sont de retour pour un live, une reprise d'Elgrès. Qu'est-ce qu'ils proposent, Djoubaka ?
Eh bien, ils proposent de jouer. Dans leur version Working Class Hero, qui est paru sur le premier album solo de Lennon en 1970. C'est une chanson qui dénonce vraiment l'aliénation des classes ouvrières. Et à cause de cette chanson, c'est incroyable, le FBI va ouvrir un dossier sur Lennon parce qu'il le considère comme un dangereux activiste politique. À vous, Delgrès.
Allez.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home, they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Tell you so fucking crazy, you can't follow their rules, no. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You're so full of fear. A working class hero is something to be. Oh. Living black hero is something to be.
C'était Dale Grès et cette reprise de John Lennon, Working Class Hero. Je rappelle que l'album de Dale Grès est disponible. Il s'intitule Promis le ciel. C'est un album France Inter. Merci beaucoup à Pascal Danaé, à la guitare aussi, hein, au chant, batterie et chœur Baptiste Brondy et au sousaphone Ravji. Merci beaucoup. Vous êtes en tournée, hein. Vous passez par Toulouse, Aix-en-Provence, Reims, au mois de mars. Et à Paris, à la maroquinerie. Oh, c'est sold out le 27 mars, c'est pas grave. Le 4 mai, il y aura Brest. Merci beaucoup, Dale Grès. C'est un plaisir de vous accueillir. Sur France Inter, en direct, avec Pascal Arbillot qui nous accompagne. Et après tant de beauté, il faut trouver encore plus de beauté. Et puisque les beaux yeux du jeu sans euros me font mourir d'amour, j'appelle la belle marquise et le beau marquis du divertissement. À vous Juliette, à vous Guillaume.
Oh merci Charline, quel magnifique lancement. J'en ai les larmes aux yeux, merci. Bonsoir à tous et bienvenue au jeu sans euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des
euros.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir Guillaume, et bien une fois encore, nous avons sélectionné la crème de la crème.
Oui,
une candidate et un candidat dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique.
Et alors vous êtes avec qui Juliette?
Je suis, levez-vous s'il vous plaît, je suis avec Léna. Bonjour Léna, comment vous appelez-vous?
Sans surprise, Léna.
Oh. Ah. Effectivement, je ne suis pas très surprise. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Léna?
Je suis Kate Middleton.
Non, mais enfin non, Léna, vous voyez bien que vous mentez.
Mais pas du tout, c'est vous qui êtes nulle en Photoshop.
Très bien, j'en accepte l'augure. Guillaume, votre candidat.
Alors, levez-vous, Alexandre. Je suis avec Alexandre. Quel est votre prénom, Alexandre?
Alexandre.
Incroyable, comme Alexandre Benalla et Alexandre Pinochet. Bon, je sais pas. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre?
Je suis coach en malaise pour le gouvernement français.
Oh là, oui, vous avez du boulot, j'imagine. Ah, le coup d'Olivia Grégoire qui chante, c'était vous?
Oui.
Ouais, quel génie. Vous faites d'autres choses?
Je coécris aussi les livres de Bruno Le Maire.
Ah oui, effectivement, il y a toute une œuvre. Et scénariser la carrière d'Amélie Oudéa-Castéra, on imagine. Très bien.
Et nous allons jouer Alexandre, Guillaume et Léna, oui, pour un cadeau magnifique.
Oui, Juliette, il s'agit d'un nuancier, regardez, qui va du noir au blanc pour savoir si on est pour ou contre telle ou telle chanteuse à l'ouverture des JO. Aya Nakamura, vous voyez, c'est là dans le noir, donc c'est non. Marion Maréchal Le Pen, en revanche, c'est oui.
Oui, mais enfin, Guillaume, elle ne chante pas, Marion Maréchal.
S'il vous plaît, soyez un petit peu patriote, Juliette. Allez, c'est parti pour le jeu sans euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des
euros.
Et on commence avec la première question. Guillaume, s'il vous plaît.
Pour Alexandre, concentration. Cette semaine à l'Assemblée nationale, la ministre de la Jeunesse, Sarah El-Haïry, répondant à une question d'une députée, a dit quoi? Il ne faut pas jeter l'eau propre sur les professionnels. Elle a dit qu'ils avaient du pain sur la clanche ou qu'elle avait la chair de moule. Un, deux ou trois, Alexandre?
La trois.
C'est la un, Alexandre, malheureusement. Quel dommage, mais c'était pas facile.
Allez, avec un peu de chance, Léna va faire mieux. Question pour Léna. Quelle théorie concernant Xavier Dupont de Ligonnès est venue exposer sa sœur dans tous les médias français? Réponse numéro 1. Il était un espion américain et sa famille et lui ont été exfiltrés aux États-Unis. Réponse numéro 2. Il joue actuellement aux boules sur l'île où vivent déjà Elvis, Tupac et Johnny. Réponse numéro 3. En fait, en vrai, c'était l'homme au masque de fer. Ça fait qu'il a 4 siècles. Bravo le transhumanisme. Quelle réponse, Léna?
La une.
Et oui!
Ah là 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 là, c'est Léna qui prend l'avantage!
Et je n'ai même pas triché!
Et non, pour une fois!
Et donc, pour vous départager, on va passer sans plus attendre à la question.
Bonus! 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 Bonus!
Incroyable question bonus qui vaut aujourd'hui 2863 points!
Oh là là!
C'est énorme!
C'est beaucoup trop, Guillaume, on ne va pas arriver à les compter.
Allez!
La question bonus des élections présidentielles se passent en ce moment en Russie et le suspense est total.
Ouh.
Aux dernières élections de 2018, c'est un certain Vladimir Poutine qui avait été élu à la surprise générale. Mais avec quel score? Et là, on cherche un pourcentage. Léna?
Allez, Léna, allons-y.
96.
96, Alexandre?
90.
C'est Alexandre qui renverse complètement ce match. C'était 77,5%. Bravo Alexandre, vous gagnez ce magnifique cadeau, ce magnifique nuancier. Merci beaucoup Léna, merci Juliette. On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Juliette et Guillaume et les participants, et si vous voulez vous faire asticoter par les questions et jouer, la billetterie pour la semaine prochaine est ouverte sur le site maison de la radio et de la musique.fr. Réservé, c'est gratuit. Interruption, c'est le spectacle avec Pascal Arbillot, notamment sur scène au théâtre Antoine. On disait avec Juliette vendredi, on était en larmes.
Et ce qui était très surprenant, ouais, c'est qu'on savait bien, et l'une et l'autre, qu'on était en train de chouiner. Mais bon, on se refait un visage à peu près digne, mmh, et puis là on croise les visages des autres spectatrices qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît toujours pas, sauf qu'il y avait en gros un visage sur trois qui était dans le même état que le nôtre. Ce qui est très très émouvant. J'ai pas, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles dans ma vie où je suis allée.
Je ris, mais c'est pas du tout parce que ça me fait rire.
Mais vous le voyez, ça, vous le percevez?
Moi, je le dans la salle, mais c'est surtout vraiment à la fin, parce qu'il y a à la fin il y a un témoignage des parents en fait. Ouais. Ça finit sur l'histoire intime du personnage principal qui raconte l'histoire. Et puis, ça dépend des soirs. Il y a des soirs où, je ne sais pas pourquoi, les gens peut-être pleurent, mais ont envie de se lever, de crier, de parler après. Et d'autres, je ne sais pas, ça, c'est à chaque fois, c'est différent. Hein. C'est vraiment une personne entière, un public. Hein. C'est très étonnant. Et nous, on a adoré cette représentation. C'était la dernière, enfin, sauf si on est reprolongé, ouais, d'Elsa Gage. Et il y avait un truc particulier. On savait que vous étiez dans la salle, je ne sais pas.
Oui, ça doit être ça, forcément. Voilà. Mais les rires aussi, il y a des rires qui ponctuent le spectacle.
Ah ben, c'est ça qu'on voulait.
Pour ça, ouais. Comment il arrive à se nicher dans le propos?
Dans la façon, je pense que dans la façon de jouer, dans l'autodérision qu'ont les femmes et dans l'écriture. C'est-à-dire qu'en Sandra Visavona a un humour décapant. Et puis qu'il y a des témoignages qui sont, je trouve, assez drôles. La catholique, par exemple, qui pense. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est les talents des actrices, mais c'est aussi les choix des textes, puis les mélanges des textes. Il y a une copine qui raconte qu'elle est filmée, c'est joué par une fille géniale. J'ai pas son nom. Oh là là. Hélène Babu, qui est géniale, mm-hmm, qui mange des frites et qui tout d'un coup se souvient. Il dit oui, j'ai avorté, je l'ai dit à ma copine, je vais dormir chez elle, j'étais un peu triste. Et puis d'un coup, je dis je me souviens. Le lendemain matin, en partant, j'ai croisé sa mère qui m'a regardée, qui m'a dit « petite salope ». Et tout d'un coup, elle se rend compte de ça, et après, elle débriefe de ça avec sa copine. Et c'est ça qui est drôle, c'est tout d'un coup, ça reste quand même... on voit des femmes qui repensent à leur anecdote, qui disent...
Et ça débloque quelque chose.
Ça débloque.
Et elle a un franc-parler énorme.
Ah ouais, elle est géniale.
Qui montre qu'elle a voulu prendre
géniale.
Comme ça le dessus sur la situation.
Ouais, mais on a pris que des actrices pour faire les témoignages réels. Dans le livre, que je vous conseille de l'acheter, il y a au moins 70 témoignages. Il y en a des vraiment qui sont désopilants.
Le livre... Donc,
Interruption.
Il s'appelle Interruption,
Stock, je crois.
Oui. Sandra Visavona.
Et dans ces témoignages, il y a à la fois des jeunes filles qui ont avorté dans les dernières années.
Oui, puis on voit des archives des années 60. Ouais. D'une là qui raconte que ses voisins d'immeubles sont allés lui acheter un moteur de frigidaire et pour lui faire un aspirateur Karman. À l'époque, c'est comme ça qu'on avortait illégalement. Avec, et elle le dit avec une voix tellement drôle. Et une autre qui raconte aussi qu'elle a avorté sur la table de la cuisine et que son père avait été super. Elle avait dit... c'était un vrai communiste. Et elle le dit. Tout le monde rit dans la salle, c'est génial.
Au Théâtre Antoine, aussi demain, Théâtre Antoine, Théâtre Libre aussi, un festival qui s'appelle Paroles Citoyennes.
Alors là, c'est au Théâtre Antoine. Au Théâtre Antoine
vous,
demain, mais je pense qu'il y a plusieurs salles.
Et Festival d'Anjou, le 17 juin, Pascal Arbillot. Et alors, où on parle, vous préparez peut-être le Tupperware pour demain? On ne sait jamais si la cantine de l'entreprise n'est pas top. Le cartable des enfants, vous venez de vous rendre compte que les draps ne sont pas secs. Vous n'êtes pas couché. Voilà, c'est un dimanche soir comme les autres sur la Terre. Et pendant ce temps, les rédactions travaillent. Elles sont à une encablure du bouclage ou de la préparation des matinales. Tiens, on va se rendre parmi ces journalistes qui sont d'astreinte ce dimanche à la radio.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de RTL.
Bon, vous avez vu qui nous a clashé cette semaine sur Twitter?
Booba.
Non.
Johnny clash.
Non, rien à voir. Non, c'est Laurence Bloch, une des patronnes de Radio France.
Pom.
Ouais, elle pense que si les gens écoutent plus France Inter que RTL, c'est à cause de la qualité de leur programme.
Mais c'est faux. C'est faux, bien c'est sûr. Faux. Nous, on a Laurent Gérard. Et moi, j'adore.
Crac, crac. Mon vélo. Ah non, il est trop drôle. J'ai fait Bourville.
Ah, d'accord. Oui, d'accord.
Mais mal.
Bon, ouais. Bon, il faut contre-attaquer, là. Allez.
Et si on recrutait les talents de Radio France?
Ah, ça, c'est une bonne idée. Qui est-ce qu'on peut recruter?
Guillaume Meurice.
Ah, non, il est nul, nul, nul. Il est pas bon. Il est bizarre, sa vieille tête dégueulasse, là. Meurt, meurt.
Il est super ce sketch écrit par Aymeric Lompré.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Télématin. Pendant ce temps-là, à la rédaction de RTL.
Je suis tellement quintette. Ah mais j'adore quand il fait ça, j'adore.
Elle est pénible avec Laurent Gérard. Pénible. Bon, d'autres idées pour affaiblir Radio France, là?
Et si on piquait directement leurs émissions?
Ouais, genre une émission en public, mais avec le public de RTL?
Ouais, ce serait super de faire des émissions avec un public qui sent bon.
Banco. En plus, on a de la thune. On pourrait faire des vrais sketchs avec des vrais comédiens, pas comme Guillaume Meurice qui est nul, nul, nul. Par contre, l'auteur de ce sketch, il est top, top, top.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Inter. À gauche.
Oh merde, ah. Qu'est-ce qui se passe? Une dépêche AFP? Non, RTL veut piquer notre idée d'émission. Eh oui, car ils l'ont dit dans un sketch. Quel sketch? Celui-ci, le sketch où on ne comprend rien. Celui-là même.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de RTL.
Je vous demande de vous arrêter.
Arrête. Arrête avec Laurent Gérard, t'en peux plus, sans déconner.
Mais oui, mais moi je le trouve hyper drôle. D'ailleurs, en parlant des hyper drôles, c'est pas l'anniversaire de Coluche?
Ah non, ça c'est le 28 octobre.
Ah non, mais je parle de l'anniversaire du nouveau Coluche.
Ah. Aymeric Lompré.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais.
J'ai rien entendu. Vous devez deviner qui je suis. Aymerictus. Rigolez, c'est mon anniversaire. On dit aujourd'hui, vous êtes obligé de rigoler à ma chronique. Ce sera un peu votre cadeau. Même si votre présence est déjà un très très beau cadeau, parce que sans vous, je suis rien. Le public, c'est mon oxygène, c'est ma raison de vivre. Le public, c'est un joyau dans un océan grand comme un grand pan. L'autre fois, on en parlait avec Guillaume, on se disait, putain, sans le public, on est rien. Et lui disait, ouais, surtout, j'ai pas de chronique. Allez, c'est parti pour l'actualité. Vous avez vu, le Conseil d'État a dit que le Rassemblement National était d'extrême droite. Ouais, le caca, c'est du caca. L'eau, ça mouille. Le jazz, c'est insupportable. Le jazz, c'est insupportable. Je suis allé à un concert lundi de jazz, mais l'enfer. Le mec qui était à côté de moi, il était là. C'est quoi ton morceau préféré? Putain, j'en sais rien, c'est le même depuis 2h30. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Tu veux une coupette, hein? Non, je te demande si tu veux une coupette. Chut, taisez-vous! Là, devant, le solo de triangle va commencer. Ding, ding, ding. C'est un génie. Putain, vous aimez bien le jazz en vrai? Non, mais je suis vendeur de triangle. Et ça marche bien? L'instrument? Non, mais les sandwichs, oui. Rigolez, c'est mon anniversaire. Alors, bon, je vois les mauvaises langues dire ouais, ça va, ils se touchent le Conseil d'État. C'est pas des questions non plus de ouf, quoi. Le RN est-il d'extrême droite? Vianney doit-il chanter? Éric Ciotti, être humain ou gousse d'ail? Non mais c'est vrai que pour savoir si le RN est d'extrême droite, faut pas se lever à 8h, tu vois, du matin. Contrairement à la question, pourquoi ne pas faire des housses de couette qui s'ouvrent en deux? Voilà.
Bon, ça dénonce.
Elle était forte, la chouffe. Non mais attends. Mais à leur décharge, en fait, c'est le Rassemblement National qui a demandé au Conseil d'État de ne plus être qualifié d'extrême droite. Et le Conseil d'État, il a dit, si, vous êtes bien des fachos. Après, les fachos, ils étaient là, ah ouais, mais comment vous pouvez dire ça? Bah, votre parti a été créé par un Waffen-SS et un éplucheur d'Algériens. Vous êtes xénophobe, raciste, nationaliste, sécuritaire. Vous voulez réserver les aides sociales aux Français, supprimer le regroupement familial, révoquer le droit du sol, éradiquer l'islam et interdire la sauce algérienne. Après, Jordan Bardella, il était là, Igné. Le Conseil d'État, il a fait pardon. Chut, excusez-moi, si vous n'aimez pas le jazz, vous n'êtes pas obligé de venir au concert, ok? Non, mais Tellement l'échiquier politique qui s'est décalé à droite, le Conseil d'État, il a dit que LFI et le Parti communiste, ils sont plus d'extrême gauche, ils sont juste de gauche. Mélenchon, il était deg. Il s'est endormi, c'était Karl Marx, il s'est réveillé, c'était Olivier Faure, quoi. Et les éditorialistes, pareil, hein, Routel Krief et Nathalie Saint-Cric, elles étaient en crise d'épilepsie. Mais ils sont extrêmes, c'est pareil les extrêmes, c'est pareil. Nathalie, partons sur une île déserte, loin du prolétariat. Oui, Ruth, partons tous les deux, main dans la main. Chut, personne ne vous oblige à venir voir du concert de Jan. Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, dans ses œuvres, à revoir sur YouTube éventuellement. La chaîne de France Inter. Et merci à Christophe Boulon et Xavier Joriot à la machinerie. Pascal Herbillot, le spectacle Interruption, le témoignage fait avancer la société. Le rôle politique du théâtre dans la société, bon, le théâtre ça se joue à huis clos, il faut y avoir accès. Parfois il faut avoir les moyens. Oui, est-ce qu'aujourd'hui le théâtre peut faire avancer les mœurs?
Oui, en tout cas la parole, ce qui est déjà pas mal, parce que souvent les mœurs, il faut d'abord des témoignages pour que les mœurs changent. Après, c'est bien que la loi soit passée, mais en fait, il faut faire le maximum. Alors, le théâtre, ça peut être aussi un film, ça peut être une parole là comme ça d'un journaliste, d'une chronique.
Oui, alors une chronique, ça dépend.
Je me remets pas de la gousse d'ail, pardon.
En tout cas, avec ce spectacle Interruption, voilà, il y a un rôle engagé politique.
Oui, mais parce que surtout, c'est que ça. On le vit, on peut en parler tout de suite. Au cinéma, on se retrouve après, on est en couple, on part. Là, les gens ont partagé quelque chose et souvent, ils se parlent entre eux.
Et là, on débat, on rit, on pleure, ouais. Vous le dites. Et vraiment, allez-y. Hein. C'est, là, sans... Alors, vraiment.
Alors sans hésitation.
D'habitude, on a des invités, ils font de la merde vraiment. Mais là, vraiment.
Ah bah non, mais là, quand on aime beaucoup, on le dit. Voilà, sans hésitation et avec un billet. Interruption. Au théâtre Antoine, Pascal Herbillot. Cette émission se termine souvent en chanson. Et aujourd'hui, ça va être au clavier, au piano, parce qu'aujourd'hui, c'est qui aiderait.
Je voulais chanter une petite chanson pour les enfants, car c'est ma passion, pour leur faire découvrir un endroit dont on parle moins que le Puy du Fou. Et moi, je trouvais ça dommage. Donc, voilà. Quand on est gamin, il y a plein de trucs qu'on n'aime pas. Aller chez le médecin, finir ses petits pois. On n'aime pas aller en cours. On n'aime pas les dentistes, on donnerait tout pour que rien de tout ça n'existe. Mais il y a sur Terre un endroit où il n'y a plus rien de tout ça. Pas d'école et pas de haricots verts, et en plus c'est au bord de la mer. Un endroit où tes parents ne t'embêtent pas tout le temps, parce que tu n'as plus de parents. Où tu dois pas partager avec tes frères et sœurs, parce que tu n'as plus ni frères ni sœurs. Un endroit où tu peux être dehors toute la journée, parce que ta maison, elle est toute cassée. Et cet endroit, tu peux y rester toute ta vie. De toute façon, il n'y a pas de sortie. Y'a des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis y'a d'autres endroits, comme Gaza. Quand on est petit, souvent on tourne en rond. On ne sait pas quoi faire, on trouve le temps long. Là-bas y a plein de suspense, on ne s'ennuie jamais. Seras-tu encore vivant à la fin de la journée? Vas-tu trouver de l'eau? Vas-tu retrouver ton bras? Est-ce que demain l'hôpital sera encore là? On peut jouer à deviner où vont tomber les missiles, ou au Jenga avec les dépouilles des civils. Et s'il y a un autre enfant qui t'embête, y'a qu'à attendre qu'il se prenne un obus dans la tête. Pas de quoi se lamenter, non, pas de quoi être triste. Sans doute que dans sa couche il cachait un terroriste. Des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis à d'autres endroits, comme Gaza.
Guédré, merci ma chère Guédré, bravo. Vous repartez en tournée avec les chansons de l'émission à Alès, Paris, Dunkerque, Strasbourg, et toutes les dates sont sur votre site viedre.fr. Et merci à Pascal Arbillot d'avoir passé merci cette heure en notre compagnie. Merci cher Pascal. Merci à Adèle Grèce pour le live et à Sophie Loustalo pour le stand-up radio. Merci aussi à notre programmatrice qui le dimanche soir court partout, la bien nommée Alexia Lacour. Réalisation François Audouin, rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi, avec coécriture aussi Xavier No et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Sour qui se charge de l'édition de nos pages web et des vidéos sur les réseaux. Merci à Jean-Baptiste Miel, notre régisseur de production ce soir. Merci aux hôtesses et hôtes d'accueil, aux techniciens qui préparent les lives et la prise de son, Maxime De Peretti et Sidwen Lynch. Sonorisation Nadège Antonini, parc instrumental William Manzoni, backline Arthur Gousset. Oui, c'est un véritable spectacle radiophonique. Avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Laëlia Véron, Constance, Djoubaka, Jamil Le Schlag et Guédré.
Et Charline Banounaker.
Et après le journal, retrouvez les petits bateaux de Camille Cronier. Et ensuite, le masque et la plume avec Rebecca Manzoni à dimanche prochain, en direct et en public.